that comes from Tanzania.
Gale, gale, bonjour. Émission Livres et Amis du mercredi 9 février. C'était hier. Non, on est le 9 mars, excusez-moi. Donc, c'était effectivement hier, la Journée internationale des droits de la femme. Donc, c'était le 8 mars et nous sommes le 9 mars. Et toute cette semaine, donc, événements et manifestations se poursuivent pour fêter les droits des femmes à Marseille et ailleurs. Et par exemple, à Marseille, demain après-midi, demain jeudi, au CCO Bernard Dubois, Velten, il y a toute une après-midi de spectacles, d'ateliers, de rencontres de 14h à 17h avec plein de choses intéressantes. Il y a également du vendredi 11 au dimanche 13, le festival Film Femmes Méditerranée qui se déroule à la fois au Gyptis, à la Baleine, au Vidéodrome, autour de la filmographie de femmes, bien sûr, et sur Diop, en sa présence, avec en particulier au Gyptis, pour son dernier film, la projection de Nous, dimanche à 17h. Donc je vous mettrai les coordonnées des différents lieux de projection sur le site. Revenons à notre livre d'aujourd'hui. Eh bien, nous quittons les terres lointaines où nous étions ces dernières semaines pour revenir entre politique et société avec un livre dont nous vous lirons de larges extraits. Un ouvrage écrit de 2012 à 2014, paru en 2015, mais toujours autant d'actualité, et d'autant plus en cette période de campagne présidentielle. Un ouvrage qui s'appelle donc « Lettre ouverte à toi, président », qui a été écrit par Philippe Torreton. Donc Philippe Torreton, vous le connaissez, puisque c'est un de nos grands acteurs au théâtre ou au cinéma, mais c'est aussi un citoyen très concerné par la politique, engagé à gauche toute sa vie, comme il dit, et en particulier auprès du PS, puisqu'il a été conseiller à la mairie de Paris à partir de 2008, qu'il n'est pas resté très longtemps d'ailleurs, mais qu'il a aussi été candidat au municipal, à un poste non éligible, mais à Fontenay-sous-Bois en 2020. Et en 2012... pour la présidentielle, justement, il avait fait partie des gens qui soutenaient François Hollande. Toutefois, après l'élection de François Hollande, il a assez vite exprimé sa déception. Et ce livre, donc, ce recueil de lettres ouvertes au président, écrites de 2012 à 2014, elles sont d'actualité parce qu'elles reflètent, elles expriment ces réflexions politiques, économiques, sociales et même sociétales. Les réflexions de Philippe Torreton nous sont bien utiles pour notre mobilisation actuelle. Ce que Philippe Torreton revendique pour la démocratie, pour la France et en fait surtout pour les Français, pourrait-on dire, qui n'ont pas souvent la parole, c'est ce que revendiquent aussi les auteurs qu'on avait diffusés ces dernières semaines. Gilets jaunes, ouvriers licenciés, travailleurs précaires. Philippe Torreton, dans son ouvrage, c'est un peu une voix et un porte-voix pour nous tous. Parce qu'il a beaucoup fréquenté les grands textes, il parle bien, il écrit bien. Et il peut exprimer donc par sa voix la voix de beaucoup d'entre nous. Écoutons-le d'abord expliquer son histoire et sa démarche.
Bien sûr, il y a peut-être ici ou là dans ce livre quelques expressions laissant transparaître une forme de mécontentement, voire d'irritation. C'est normal. Les journaux brûlent un peu les yeux quand on les ouvre, comme écrivait le chanteur Alain Leprest. Lorsqu'on regarde l'évolution du monde, la répartition des richesses, les enjeux environnementaux, les révolutions écologiques et citoyennes qui piaffent dans les stalles, ces pénuries prévues qu'il nous faudra compenser si l'on veut préserver un semblant d'avenir possible pour l'humanité, ces rendez-vous terribles qui arriveront en date et en heure et qui, pour l'instant, sous forme de scénario catastrophe, font le bonheur de l'industrie hollywoodienne. Face à tout cela, et plus encore, comment rester neutre ? Comme l'a dit un président normal. Il y a quelque temps, nous fêtions la dernière représentation de Cyrano en tournée. Mes camarades m'appellent dans ma chambre d'hôtel. Il était déjà tard, mais ils avaient dégoté un karaoké bien kitsch et regretté que je ne sois pas de la partie. Je les rejoins. Il faut vite choisir une chanson avant la fermeture. Avec mon ami Adrien, on se décide pour Hexagone de Renaud. Notre tour arrive. On massacre la chanson avec cœur. Mais une fois revenus à nos bières, nous sommes surpris de l'étonnement de nos camarades devant la virulence des paroles du chanteur. Ce qu'il osait dire, les plus jeunes étaient sidérés. Après le coup de vieux que cela nous donnait, nous nous sommes demandé effectivement qui pourrait écrire comme ça aujourd'hui. Quel artiste hyper connu, comme pouvait l'être Renaud à l'époque, invité dans les émissions de télé les plus regardées, produit par une maison de disques, oserait chanter les textes aussi directs et politisés? La réponse est simple, personne. Bien sûr, il y a le rap, me direz-vous, mais au milieu des fausses guéguerres sur fond de marques de fringues et d'appels à bouffer du flic, les vrais auteurs, et il y en a, ont beaucoup de mal à sortir du ghetto et à se faire entendre. Donc oui, ce livre peut contenir des traces de colère, et je m'en excuse par avance. Je me suis investie en politique, comme on dit. Depuis longtemps, j'ai soutenu des candidats, fait des discours devant des foules et je me suis inscrite dans une liste aux élections municipales à Paris. J'ai toujours voulu rencontrer des hommes et des femmes politiques pour parler, comprendre, proposer des choses, alerter. La vie des gens me passionne, c'est comme ça. Mémé et papa-maman, ils sont pour quelque chose, mais aussi Coluche, Michel Pollack, François Mitterrand, Henri Tachant, Alain Leprest, Jacques Brel, Georges Brassens, Téléphone, oui, Téléphone, la guerre des Malouines, Thatcher, Renault, Kavanagh, Reiser, Charlie Hebdo, le Nouvel Obs, Libé, Hubert Védrine, Martine Aubry, Michel Rocard, Robert Badinter, Gracchus Babeuf. Il y avait aussi cette phrase de Jaurès écrite sur le mur de l'hôtel de ville du Grand Quevilly. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Et puis le Che, Samuel Beckett, la fac de Mont-Saint-Aignan près de Rouen, et un garçon, Malik Oussekine, qui à 22 ans a eu le malheur de croiser les voltigeurs de M. Robert Pendreau. C'était en 1986, nous étions étudiants, et nous refusions le projet de loi de Vaquer. Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur et Jacques Chirac un premier ministre cohabitationnant. Nous faisions des AG, on s'engueulait, car beaucoup ne voulaient pas que ce mouvement devienne politique. Nous étions quelques-uns à enrager devant cette défiance. Contester un projet de loi est une action politique par nature. On voulait qu'il se passe quelque chose et quelque chose s'est passé. Un mort. Un étudiant battu à mort par des membres de la police française. Le projet de loi ONI fut retiré. Le ministre qui le soutenait démissionna. Et pourtant, personne n'avait envie de fêter cette victoire. Des policiers avaient tué l'un des nôtres. Alors, avec quelques-uns, nous nous sommes dit qu'il fallait aller plus loin et ne pas se contenter de réfléchir 5 minutes avant de finalement voter comme papa. Mais le théâtre était déjà là. Et les indignations d'Alceste faisaient un peu d'ombre aux miennes. Pourtant, un professeur d'art dramatique près de Rouen nous parlait de débat, nous disait que la scène était un lieu de débat. Je ne comprenais pas. Je pensais naïvement qu'il fallait jouer, et me voilà à me débattre avec les colères d'Alceste que j'avais du mal à faire miennes. 2 ans avant la mort de Malik Oussekine, je votais pour la première fois de ma vie, une élection européenne. À l'époque, cette Europe n'avait que 10 membres, mais c'était déjà compliqué à comprendre. Il y avait déjà une kyrielle de listes, il y avait déjà Jacques Cheminade, Le Pen père, car la fille n'avait pas encore le droit de vote. Il y avait travailleuse, travailleur Laguiller, qui n'avait pas encore déçu les chanteurs. J'étais assez fière d'aller voter pour la première fois. Mon père était avec moi. Il ne me disait pas pour qui il votait. Ce n'était pas à droite, ça je pouvais en être certain, mais était-il le seul communiste de cette ville socialiste, le Grand Quevilly? J'aimais bien ce paternel secret de l'urne. Il y avait un parfum de sacré dans son silence, l'isoloir comme une confession politique à lui-même. Depuis, Je vote tout le temps et quand je ne peux pas, je procurationne. J'ai le sentiment que ça me donne le droit de l'ouvrir. Quand on peut voter et qu'on ne le fait pas, on a juste le droit de la fermer et de subir. J'ai du mal à voir le monde tel qu'il est et à me dire que c'est comme ça, qu'il y a un avant ou un ailleurs moins bien loti. J'ai du mal à voir des choses vitales disparaître et à garder confiance en l'avenir malgré tout. Les langues, les métiers, les insectes, les plantes, les journaux, la liberté, la confiance, la solidarité, l'entraide, les grands singes, les matières premières, le niveau de vie, le direct à la télé, l'indépendance, la singularité et nos pluriels, toutes ces choses vitales qui se prélèvent et s'exploitent et se gaspillent et s'amenuisent, ça nous nuit et ça me travaille. Depuis toujours, j'imagine des plans d'action, mes plans quinquennaux à moi, pour sauver le devenir humain. Tous mes cahiers d'écoliers sont annotés de projets de réforme, de chantiers. L'aventure communiste m'a fait rêver et pourtant je n'ai que rarement voté communiste. Mais bon Dieu, que j'aurais aimé venir au monde plus tôt et mener quelques combats ouvriers. Aujourd'hui, comme beaucoup, je suis déçue, dépitée, désappointée, consternée, accablée. Je me sens trompée, bernée, trahie. Je ne comprends pas bien ce qui se passe, ou plutôt si, je comprends que c'est cela qui me file cette nausée. J'ai le sentiment qu'une élection a eu lieu, mais que rien ne s'est passé normalement. La gauche devait gagner en 2012 comme elle aurait dû gagner en 2017. Mais qui a vraiment gagné à gauche ?
Eh oui, beaucoup ont fêté la victoire de François Hollande, car beaucoup de gens à gauche s'étaient réunis derrière lui. Alors, qui a vraiment à gagner à gauche ? C'était la question de Philippe Torreton en 2012. C'est ce qui va être à l'origine des lettres ouvertes qu'il continue à écrire au fur et à mesure. Donc, il essaye de répondre à cette question, qui a vraiment à gagner à gauche ? Et dans la première lettre ouverte qu'il adresse donc à François Hollande, il commence par « Cher François ». J'aimerais te parler de deux ou trois choses qui me tiennent à cœur. Je sais, tu viens d'arriver, mais ne panique pas tout de suite, ce n'est rien qu'une feuille de route obéissant à ton slogan de campagne. Le changement, c'est maintenant. Oui, il fut un temps où tu disais des choses comme ça. Maintenant, tu dirais plutôt, le changement, c'est de faire un peu la même politique que mes prédécesseurs, voire d'aller plus loin dans le désengagement de l'État, tout en donnant l'illusion que c'est quand même un peu la gauche qui dirige ce pays. Ça fait long comme slogan. Tu as eu raison de t'en tenir à la version courte. Mais il y a urgence, cher François, urgence à rêver. Oui, je dis bien rêver, car il faut faire rêver le monde. Derrière chaque découverte ou invention, derrière chaque destin, il y a un rêve. Même toi, tu as rêvé d'être président. Je t'entends d'ici me dire que tu te heurtes au réel tous les jours et que celui-ci est assez peu disposé à faire rêver les foules et c'est là l'erreur. Mais tout de même, François Mitterrand l'avait bien compris. Malgré les renoncements et les revirements libéraux, il y en a eu aussi de son temps, il a toujours su faire flotter un parfum d'idéal, une possibilité de rêve qui nous a bien bernés peut-être, mais on peut le dire maintenant, mais on espérait quand même, on se disait que notre société meilleure avait malgré tout plus de chances d'exister avec lui qu'avec n'importe qui d'autre. On rongeait donc notre os dans notre coin en attendant. Le rêve est important, car en cas de choc frontal avec la réalité, il permet de garder un cap. Le rêve est une boussole. Tous tes ministres ont utilisé au moins une fois l'expression « Le chemin le plus sûr en politique n'est pas forcément la ligne droite. » Nous sommes bien d'accord. À condition de savoir où l'on veut aller, sinon le risque est grand d'accréditer Winston Churchill, qui voyait en Christophe Colomb le premier socialiste, puisqu'il ne savait pas où il se trouvait, il ne savait pas où il allait, et il voyageait aux frais du contribuable. Bon, alors, on y va ? On ose rêver, cher François ? Chef, tu permets que je t'appelle chef ? Tu sais, ça te gêne, toi le président normal, mais moi ça me motive pour écrire. Moi j'ai l'âme simple, j'ai besoin de me battre, Et dans ce combat, j'ai besoin d'un chef. Alors, chef, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, la gauche, c'est des idées, des murs qui tombent entre les hommes. C'est de l'espoir cultivé en plein champ et pas rétréci en bonsaï trônant sur vos bureaux ministériels. Normalement, la gauche, c'est la voix du peuple qui redevient claire. C'est la certitude que nous, étudiants, artistes, écoliers, retraités, chômeurs, malades ou victimes, nous consommateurs, nous personnels hospitaliers, nous corps enseignants, policiers, magistrats, sidérurgistes, nous en marge, en peine, en manque, nous serons entendus. Nous serons entendus et compris. La gauche, c'est pouvoir redresser la tête face au monde tel qu'il est et tenter de le changer encore, en ignorant d'avance les rires méprisants des spécialistes du laisser-faire économique qui pullulent dans les médias, tels des ménades dressées. Ils évoquent le marasme économique mondial. Ils nous parlent de crise grave, de situation d'une exceptionnelle gravité. Ils en appellent à notre réalisme, nous expliquent le pourquoi, du comment, des sacrifices nécessaires. Les références sémantiques deviennent parfois guerrières pour bien nous montrer que l'heure est grave. Soit, on les croit, on vous croit. Mais alors, face à la guerre, soyons guerriers, soyons combatifs, soyons inventifs. Remisons les vieilles recettes d'austérité, imaginons des armes nouvelles. Le mal est immense en face. Choisis ton camp, François. Choisis le camp des pauvres, choisis le camp des mal logés. Sois clairement le leader des exclus et n'y vois de ma part aucun clin d'œil à tes sondages d'opinion un peu calamiteux. Je fais partie de ceux qui pensent que l'avenir viendra des pauvres, et j'utilise exprès ce mot de pauvre et non un terme administratif déculpabilisant ou une notion économique déshumanisante. Oui, pauvres, ceux qui merdent, malgré leurs efforts, les efforts de la collectivité, ceux qui ne se lèvent plus parce qu'ils se sont tellement levés pour rien. Regarde où les gens vivent, entends les cris de ceux-là, ils osent parler de mesures confiscatoires dès que l'on essaye de rééquilibrer la balance de la justice sociale. Mais écoute ces plaintes des gens qui ont tout eu et qui veulent tout garder. Et comme nous, mais non, mais laisse monter la rage en toi. Sois normalement en colère, toi président, comme nous le sommes, nous, citoyens. J'aimerais par exemple te parler de la justice. Nous sommes l'un des pays européens qui, à niveau de richesse équivalent, consacre le moins d'argent à son fonctionnement. Une étude comparative de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice nous fait remarquer que, malgré une tendance à la hausse ces dernières années, nous restons au 34e rang des 40 pays étudiés. Nous donnons à peu près autant d'argent par habitant à la justice que l'Azerbaïdjan. C'est étonnant, non ? Encore quelques comparaisons ? Nous possédons moins d'un tribunal pour 100 000 habitants, ce qui nous place à côté de l'Arménie. Mais ce n'est pas fini. La France rend sa justice avec 10,7 juges pour 100 000 habitants, alors que la moyenne européenne est de 21,3. Tous ces chiffres sont facilement consultables par Internet et il y en a bien d'autres. Mais il faut croire que l'on cherche à maintenir notre rang aussi dans le classement mondial de la corruption. Il existe 21 pays plus intègres que nous. 21 qui sont plus propres, par exemple le Chili ou l'Uruguay qui nous devance, mais aussi Singapour, Hong Kong, la Barbade, le Luxembourg. 21 pays qui nous font baisser la tête de honte. Les prud'hommes sont débordés. Les inspecteurs du travail n'ont pas assez d'une dizaine de vies pour traiter un centième des dossiers dont ils ont la charge. Et, ouais, le citoyen est démuni lorsque la justice de son pays se traîne et ce désarroi se retrouve dans les urnes sous forme de vote extrême ou d'abstention. Nos prisons se gonflent de désespoir, des réseaux criminels y voient le jour. L'islam radical y trouve de belles opportunités de recrutement. Le futur se suicide en tôle, quand il n'assassine pas certains. Nous faisons partie du peloton de queue des pays de l'Union européenne pour la densité de la population carcérale, pour sa santé, pour son hygiène, pour sa sécurité. Même le Comité européen pour la prévention de la torture nous stigmatise, puisque nous continuons à utiliser la vieille technique de contrôle des individus, qui consiste à les réveiller plusieurs fois par nuit. Bon, j'aimerais te parler d'éducation nationale également. J'y suis attachée, je viens de là. Ma mère était institutrice, on habitait son logement de fonction. Je jouais le soir dans son école et j'ai découvert le théâtre au collège. Donc je peux réellement dire que je viens de là. Laisse-moi te confier mes impressions de fils d'enseignante, d'ex-écolier et dorénavant de parent d'élève. Je te dis ça comme ça vient, ce n'est pas un rapport commandé, livré à domicile. C'est du sentiment politique, c'est du désordre amoureux, pardon d'avance. Alors, il faudrait en finir, une fois pour toutes, avec cet archaïsme qui consiste à tatouer chaque jour l'âme des élèves avec une note. La notation définit des camps, dresse des frontières entre les gosses. Elle fait regarder l'autre différemment, avec ironie, méfiance ou jalousie. Les concours et les notes tuent le savoir, éloignent de la connaissance. Le concours est un signe, un symptôme d'une société de caste, d'une consanguinité des élites, un territoire qu'il faut préserver. Albert Jacquard pourfend la sélection par les mathématiques qui pénalise des générations d'élèves dans leur rêve de savoir. Il a raison. J'apprends aussi qu'il est question que le bac soit exigé pour suivre des études d'art dramatique au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Je peux avoir la liste des imbéciles qui planchent actuellement sur le dossier ? La note décourage le bon élève comme le mauvais, car elle est prétentieuse. Elle résume une copie à un chiffre infaillible, alors qu'il s'agit d'un travail humain sensible. Bon, et il serait bon que les activités extrascolaires soient encouragées. Un élève qui, en plus du temps scolaire, s'adonne à un sport ou à une activité artistique, fait preuve de curiosité, de courage, cela mérite d'être pris en compte. Il faut que l'école apparaisse comme un partenaire de l'élève et non comme une institution bornée qui ne voit rien et pond de l'injustice à longueur de journée. Pratiquer le football en club est fatigant. Un élève qui a des matchs le dimanche a le droit d'être crevé, tout comme celui qui donne des concerts ou des représentations théâtrales. Ces activités peuvent engendrer des soucis, autres que ceux déterminés par le cursus scolaire. Je rêve qu'un jour, on choisisse tel ou tel lycée pour l'excellence de son orchestre classique ou la qualité de ses formations de jazz, que l'on préfère un collège pour la qualité de ses spectacles ou l'incroyable univers qui se dégage de ses expositions d'art plastique. Eh, qu'il existe encore des lycées sans club de théâtre est une folie. L'école est une possibilité de devenir, un devenir qui passe par l'expression de soi. Permettre à un enfant scolarisé de s'exprimer, c'est lui tendre des perches afin qu'il puisse découvrir par la pratique artistique qu'il vaut quelque chose, que son être nous intéresse. Il reprendra plus facilement ses livres de chimie ou de maths une fois conforté dans son intimité d'être humain. Et je parle bien de pratique et non d'enseignement des disciplines artistiques, car l'histoire de l'art est certes potentiellement passionnante, mais c'est encore une fois de devoirs, de copies et de notes et de classements qu'il est question. L'histoire de l'art à l'école, c'est comme Rimbaud qui devient un pion qui surveille l'étude. Apprendre les règles de football, c'est bien, mais prendre un ballon et aller sur le terrain pour en faire, c'est mieux. L'éducation théorique empêche le corps de penser. L'enseignement pratique n'interdit pas à la pensée de bouger. Pierre-Gilles de Gennes pourfendait l'académisme du cursus scientifique en France et Georges Charpak avait créé l'association La main à la pâte qui voulait privilégier l'expérimentation des sciences dès l'école primaire. Ils avaient compris ces deux prix Nobel. La France a encore du mal à se défaire de ses vieux réflexes. Elle semble toujours vouloir fabriquer des savants. On accumule du savoir au lieu de se retrousser les manches et d'expérimenter. Encore un exemple. Lorsque j'ai tourné « Ça commence aujourd'hui » de Bertrand Tavernier, l'école maternelle qui était au centre de l'histoire ne s'arrêtait pas de vivre pendant le tournage du film. Ma classe en était une vraie. Et c'est donc tout naturellement que nous avons eu droit à la visite de trois étudiants en IUFM qui venaient respirer un peu le concret de leur destinée. Je fus assez surpris de voir leur timidité face aux petites 3 ans. En fait, leur naturel s'évaporait parce qu'ils devaient enseigner comme une mission impérieuse. Et moi-même, dont le métier est d'interpréter, je me remémorais mon premier contact catastrophique avec les petits. J'avais entrepris de leur lire une histoire, mais je le faisais de façon appliquée, en articulant, avec le souci un peu bêta de leur apprendre quelque chose. Il ne manquait qu'une tasse de thé et des biscuits anglais. Évidemment, au bout de 5 minutes, les mômes faisaient à peu près tout, sauf écouter. Leur vrai instituteur, toujours présent dans la classe, me dit qu'il fallait jouer l'histoire afin de les surprendre. Moi, le comédien, j'avais oublié de jouer parce que je me faisais une vision sérieuse et distante de l'enseignement, malgré moi, malgré ce que je voulais faire dans le film. J'avais oublié d'être vivant. Nous devrions aussi, d'une autre façon, mêler totalement et intimement aux autres les élèves en situation de handicap. La vie est là, c'est comme ça qu'elle doit se vivre. Les parents d'enfants handicapés se débattent avec une ségrégation qui ne veut pas dire son nom. L'école doit apprendre le vivre ensemble, et celui-ci passe par la mixité sur tous les plans. L'école est un avant-poste. Personne ne se fait une idée, une juste idée, du courage qu'il faut pour enseigner. Cette école pourrait aussi former au dur métier de parent, si elle tenait les yeux grands ouverts sur la vie. Alors voilà, parlons de tout ça et essayons de ne plus trop attendre. Il faut agir. Voilà, ça c'était la première lettre ouverte. Et maintenant, on va passer, puisque Philippe Torton parlait de rêve, on va passer à des choses plus pratiques dans la société. Il faut revenir à l'infrastructure, il faut revenir à l'économie. Et là encore, 10 ans après les dénonciations de Philippe Torton en 2012, il reste des choses bien actuelles. Venons-y avec une autre lettre ouverte.
Août 2012, Nogent-sur-Loire. Cher François, il semblerait qu'un homme possédant son métier ait un poids et encombrant pour le capitalisme financier. Cet homme est à la fois nécessaire et gênant. Gênant parce qu'il peut mettre en perspective ce qu'on lui demande de faire et adapter la qualité de son travail en conséquence. Gênant car son expérience et sa qualification se payent. Gênant car il connaît ses droits, qu'il soit syndiqué ou non. Ce travailleur peut transmettre son savoir-faire et, plus grave, la fierté qui va avec, et ainsi former des jeunes qui porteront sans doute aussi en eux cette foi en leur métier. Mais il reste nécessaire car la machine-outil et les robots laissent encore des plages de maladresse pour l'habileté humaine. L'entreprise, entre les mains de ce capitalisme financier, doit se débarrasser de ces individus ainsi que d'une certaine fierté au travail. La question est de gagner toujours plus d'argent. Il faut donc réduire les coûts, retirer le maximum de salariés tout en augmentant le niveau de production. Il s'agit de tuer le travail, finalement. On lui préfère le terme de tâche, comme au bon vieux temps du taylorisme. Le capitalisme financier fait bégayer le monde. Un travail, c'est un homme. Une tâche, c'est n'importe quoi et donc n'importe qui. Ainsi, éliminer le travail, cela revient à massacrer des hommes. Et de fait, à la tâche, on y meurt. Moins brutalement qu'au XIXe siècle, mais on y meurt. On meurt de déconsidération, d'humiliation, de placardisation, de ne pas savoir de quoi l'avenir immédiat sera fait. On meurt de ne pas comprendre, on meurt d'injustice, on meurt de différence, de salaire démentiel, alors que la publicité nous expose au même désir de possession que les plus riches. On meurt d'être rentable, toujours plus rentable. On meurt de ses rythmes et de ses cadences. On meurt d'être surveillé tel un délinquant en puissance, de se voir qualifié de râleur et de rétrograde pendant que discrètement son travail se délocalise et que des politiques impuissants ou complices en appellent au patriotisme industriel. On impute au travail plus d'un décès par jour, mais il semblerait que ce chiffre soit minoré, trop tabou. Le grand capital a besoin d'une main-d'œuvre faiblement instruite, disponible, acculée à la pauvreté et ainsi peu regardante sur la qualité de l'emploi. Plus de travailleurs, mais une masse d'employés, de gens employés à faire quelque chose. François Fillon parlait d'un contrat qui pourrait être passé entre les salariés et les employeurs pour adapter le travail à la réalité du marché. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Le monde de l'entreprise reste collé au XIXe siècle, celui du patron tout-puissant qui distribue le travail à un salarié éternellement redevable. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître. Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Demandait Brel. Une foule anonyme d'employés, dans laquelle un bras mécanique vient, comme dans les jeux forains, prélever ceux qui auront la chance de participer à la grande aventure entrepreneuriale. Une foule de gens déscolarisés le plus tôt possible, afin de parvenir au stade ultime de la délocalisation à domicile. Ou comment faire de nos vieilles démocraties instruites des pays en voie de développement, prêts à tous les sacrifices pour assurer leur pitance. La dette publique est, pour le coup, une aubaine pour les ultralibéraux. Comment s'opposer aux mesures draconiennes d'austérité lorsqu'elles sont prises pour une si noble cause ? L'avenir de nos enfants, qu'il ne faut pas pénaliser par une charge trop lourde à porter. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, devant l'ampleur du sacrifice du camp victorieux, face à ce monde de vainqueurs et de vaincus bombardés, en ruines et traumatisés, le gouvernement de cette France victorieuse, mais fragilisé et endetté, a décidé, plus ou moins contraint par la force de l'histoire, d'appliquer les orientations sociales des différentes composantes des forces résistantes, le Conseil national de la résistance. Le patronat fut écarté du chantier de ces grandes réformes. En effet, devant l'ampleur de sa collaboration, du côté du BTP et de Renault notamment, le CNR a cru plus décent de s'atteler à la reconstruction du pays sans ceux qui avaient contribué à sa ruine et sa honte. « Messieurs, je n'ai pas vu beaucoup d'entre vous à Londres », a dit le général de Gaulle devant une délégation de patrons. « Nous devons au Conseil national de la Résistance nos plus grandes avancées sociales, nos systèmes les plus efficaces de protection du travailleur et de son métier, le renforcement de nos valeurs d'équité et de dignité, pour les hommes comme pour les femmes, les écoliers comme les anciens. » Aujourd'hui, cette France laborieuse, ouvrière, fonctionnaire, paysanne, est menacée dans ses droits et plus grave encore dans son intégrité et son honneur. Il a fallu 67 ans pour que le patronat n'ait plus honte de son passé peu glorieux et reprenne ses vieilles idées d'exploitation de l'homme par l'homme. L'éditorial de Denis Kessler dans le journal Challenge du 4 octobre 2007 le dit clairement dans son intitulé « Défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance. »
Oui, on va pour le moment s'arrêter là, faire une petite pause avec la chanson dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc on va écouter Renaud dans Hexagone.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y'en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort, mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie, ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin fermente en tonneaux. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leurs Côtes-du-Rhône et leurs Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à s'étarer. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers le dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindes marron. Être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.
Un petit peu, donc 65 millions de prétendants aujourd'hui. Ouais, elle est pas rose du tout, la chanson de Renaud, mais elle recoupe bien ce que dit justement Philippe Torreton sur un petit peu l'hypocrisie de la société qui cherche à se consoler des vices structurels par
du quotidien, un peu moins noir peut-être, mais qu'il est encore beaucoup pour certains. Alors on va continuer justement la dénonciation du capitalisme financier et industriel qui brade les activités françaises. On écoute donc à nouveau Philippe Torreton.
Le patriotisme, la protection sociale, l'écologie ne sont pas dans l'ADN de la pensée entrepreneuriale. Seule compte la marge bénéficiaire, et peu importe que cette quête de richesse détruise ceux qui la produisent. Une entreprise qui licencie n'est aux yeux de ses actionnaires qu'un secteur en perte de vitesse, une activité à recentrer. C'est logique, froid, comptable, sans appel. Pendant ce temps, des hommes politiques se drapent de bon sens et de pragmatisme, affrontant les travailleurs sur leur lieu de production pour leur faire croire que leur avenir est entre leurs mains, mais que cela demande des efforts, on n'a rien sans rien, il faut savoir faire des sacrifices, être réaliste, etc. Les lendemains du travailleur, c'est vrai, sont entre ses mains, à condition que l'une d'entre elles se dresse, point fermé, très haut au-dessus de sa tête. Nous devons sortir d'un système qui nous broie et détruit par la même occasion notre sol, l'air que l'on respire, la faune, la flore et les valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus. L'indignation est bonne pour la conscience, mais la résistance est meilleure pour le futur. Il s'agit de ne pas prendre le progrès et son cortège de biens de consommation pour une fin en soi. On a le droit de ne pas acheter un cartable neuf à chaque rentrée scolaire. On a le droit de ne pas être joignable 24 heures sur 24 et de ne pas avoir 250 chaînes de télévision pour un abonnement mensuel correspondant dans certains cas à presque un dixième de son salaire. On peut refuser de manger de la viande à tous les repas, on peut ne pas prendre de crédit à la consommation, ne pas vivre entouré de panneaux publicitaires. On devrait exiger une traçabilité des investissements faits par la banque avec notre argent et être autorisé à ne pas dépenser les trois quarts de son revenu en loyer. Non seulement nous avons tous ces droits et bien d'autres, mais le ou les gouvernements futurs ont le devoir impérieux de nous aider à les faire respecter. Il y aura toujours des individus qui se croiront malins de ridiculiser ces droits, de parler de recul, de repli sur soi, de démondialisation aberrante, du retour à la bougie et autres idioties sémantiques. Le progrès n'a pas de sens propre, il faut lui donner une direction. La chimie n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de ce à quoi l'on destine les molécules synthétisées. Cette nébuleuse financière, vaguement domptée par une poignée d'individus qui se partagent la richesse mondiale, ne doit plus infléchir nos vies. Il y a un lien direct, étroit et précis entre l'accumulation de fortunes colossales et l'endettement actuel. La situation du monde est le fruit d'une décision de quelques-uns et dire que cela ne relève en aucun cas de la théorie du complot. Le chaos actuel du continent africain doit beaucoup aux accords économiques et militaires signés lors de la décolonisation. Derrière le règne sanguinaire de dictateurs richissimes, il y a nos politiques énergétiques, agricoles et industrielles. Il y a Total, Areva et j'en passe, donc des hommes et des femmes. Derrière l'endettement actuel, il y a des systèmes, des montages complexes et infectés qui ont pour origine des décisions de relance de la consommation aux États-Unis. La dette de nos communes est le résultat d'un cynisme financier et derrière il y a des noms de sociétés, de PDG et d'hommes politiques. La plus grande réussite de cette époque sans scrupules est d'avoir su instiller dans la tête des gens, comme un poison, que les aléas économiques sont des périodes obéissant à des phénomènes particulièrement complexes et contre lesquels on ne peut pas grand-chose. La tâche est ardue, mais il est faux de croire que l'on ne peut qu'attendre que les marchés se régulent tout seuls. Je n'ai jamais cru personnellement au parallèle confortable qui consiste à imaginer que l'économie obéit aux mêmes principes que la nature. Car dans la nature, tout existe, sauf la volonté de tout rafler, de tout posséder. L'un des animaux le mieux armé pour tuer, le requin blanc, animal qui sert souvent à qualifier les dents longues de la finance internationale, absolument et rigoureusement le même depuis 7 millions d'années, ne prélève que ce dont il a besoin. En aucun cas, son comportement ne ressemble à ses homologues jamais repus de la finance.
Eh oui, requins et requins, les plus dangereux ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Alors, restons sur le sujet de la nature et parlons un petit peu d'écologie. Philippe Doréton relie très bien économie et écologie, justement. Et voici ce qu'il écrit à ce propos. Pourquoi cette impression laborieuse que rien ne bouge, mais que tout s'effrite petit à petit, comme ces maisons trop grandes pour ces couples devenus trop vieux? On peine, on se traîne dans presque tous les secteurs. La Cour des comptes n'arrête pas de nous gronder sur presque tous les sujets. Et pendant que les jeunes loups, ah oui, vous voyez les requins ou les jeunes loups, de la finance se font de la fraîche à Londres, à Moscou, à New York ou à Shanghai, avec le projet de s'acheter plusieurs villas en France pour y prendre leur retraite à des taux indécents, fort du vieil adage que quand on est vieux, la France, il n'y a rien de mieux, nous voyons poindre chez nous une nouvelle vague de migrants. Les petits retraités qui vont dépenser leur maigre pension au soleil du Maroc, là où 742,27 € de mensualité, ça veut encore dire quelque chose en légumes, en viande et en joie de vivre. Mais alors, en fait, en attendant le scorbut dans nos écoles, en attendant le retour de la peste bubonique à Marseille, on confie encore une mission à Jacques-Alain Attaminck, on organise une réunion de groupe à l'Assemblée. Nous entrons dans une ère d'enjeux énormes pour l'humanité, de décisions à prendre pour sauver la planète. Et nous avons le nez dans le sac à main de la France à compter les pièces jaunes. La plupart des matières premières qu'on utilise tous les jours vont être épuisées au rythme actuel d'exploitation, dans une période allant de moins de 10 ans à une vingtaine d'années pour les autres. Ce qui veut dire que le fer, le cuivre, l'aluminium, le plomb, le zinc vont devenir de plus en plus chers. Oui, en ce moment, c'est plutôt le pétrole et le gaz. Qu'en dites-vous? Le niveau des mers va monter. Les rapports successifs couvrent de honte les derniers climato-sceptiques. On n'entend même plus Claude Allègre, c'est dire. Les 100 prochaines années vont faire déplacer des centaines de millions de gens qui habitent les zones côtières. Que fait-on? Nous avons des défis industriels et technologiques hallucinants à relever pour que le siècle à venir ne soit pas celui qui marquera l'extinction de l'espèce humaine par elle-même. L'homme risque de mourir étouffé par ses déjections et on reste à écouter tranquillement Laurence Parisot, Jean-René Fourtout ou autres gâtaz qui peuvent se lancer dans cette bataille environnementale, mais sûrement pas suffisamment pour l'avenir de nos enfants. Alors, le patronat français est capable de relever ce défi gigantesque, encombré qu'il est par les fonds de pension, les dividendes, les retraites ou chapeaux ou parachutes dorés ou en platine. On y croit vraiment? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? La silicose, l'amiante, la vache folle, le sang contaminé, Bhopal, Exxon Valdez, Torrey Canyon, Amoco Cadiz, AZF, les brevets sur le vivant, les OGM, véritables convoyeurs de pesticides, la disparition alarmante des abeilles et des insectes. Eh oui, vous avez peut-être remarqué, quand on descend en voiture, à Tulle ou ailleurs, il y a de moins en moins de moustiques écrasés sur le pare-brise. Mais surtout, les immolations par le feu sur les lieux de travail, les suicides en tout genre pour cause de management excessif, la corruption du personnel politique et administratif. Oui, bah tout ça, les patrons, ça n'a pas l'air de leur mettre trop la puce à l'oreille. Si au lieu de se faire mollement graisser la patte par des pétroliers, on décidait de tenter l'aventure, dans l'océan par exemple. L'océan est une terre inconnue. On y fonce, on s'invente une nouvelle frontière. On pourrait oser le lyrisme en politique. On va fêter les 100 ans de la mort de Jaurès. Le tout est de s'entendre sur le sens du mot « fêter ». Et si la France, comme Jacques Brel, Jacques Brel comme d'autres, se demandait pourquoi on l'a tué? Faire revenir des artistes dans les écoles, ça ferait couler le pays? Essayer d'être un peu les premiers quelque part, ça pourrait être un but vraiment motivant? Alors, la révolution verte, on ose? Pour nos millions de pauvres, on attend que la croissance reparte ou on s'engage autrement? C'est quoi le plan? Partout sur notre territoire, des hommes et des femmes se regroupent en associations pour inventer un monde plus juste, plus solidaire, plus solidaire. Et j'ai le sentiment que les hommes politiques, une fois élus, n'ont pour toute fonction que de les décourager. Bah oui, ce que vous faites, c'est bien, mais ce n'est pas généralisable. Oh, puis c'est pas vraiment constitutionnel. Enfin bon. Mais le poing serré, ça fait combien de temps qu'on vous a pas vu serrer le poing? Alors, j'ai bien réfléchi. Il faut changer plein de choses dans ce pays. La France ressemble à un hôpital baudelairien. Vous savez, cet hôpital baudelairien où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Celui-là pense qu'il serait mieux près du poêle, avec François Bayrou. Un autre préférerait être près de la fenêtre, ben avec M. Macron. La France ressemble à un énorme culbuteau qui s'ébranle un peu, mais qui fait du surplace. Mais 68 avait fait bouger quelques lignes, mais quelques lignes seulement. Les Français sont retournés voter pour l'ordre et la sécurité, comme le disait Renaud, en s'excusant de ces quelques jours de bordel après les infidélités au général. L'État était là, ferme sur ses pieds, toujours là, incarné par un homme, un lieu de pouvoir, avec sa justice indépendante, ses doubles vies, son élite de grands serviteurs et ses cagnottes spéciales, son oseille fraîche sortie de la Banque de France pour les rémunérations hors cadre, ses écoutes, ses barbouzes, ses secrets défense. Et puis il y a les frégates, les sous-marins, les avions renifleurs, les amitiés libanaises, les liaisons libyennes, les tropismes irakiens, des déroulages de tapis sur gravier d'olselets humains, des généreux donateurs de pain de campagne, des emplois fictifs, des sociétés écrans, des vieilles dames milliardaires, des copains de promotion, des potes à yacht, eh oui, des amis publicistes et d'autres, flics, juges, journalistes. Alors, voilà, des fois je regarde la télé et par exemple, j'ai vu à la télé cet hommage rendu aux Invalides par la République à l'un de nos grands hommes. « Indignez-vous !» disait celui-ci. Et on l'a enterré en grande pompe. « Indignez-vous parce que sans cela, rien ne bouge et rien ne bougera jamais. L'indignation, c'est comme un combustible pour alimenter le moteur du changement salutaire. » Il avait raison, il avait mille fois raison, le grand homme qui disait « Indignez-vous !» Et d'ailleurs, « Indignez-vous !» c'est devenu un succès planétaire. Alors que cet opuscule aurait dû nous tomber des mains pour, une fois de plus, serrer le poing. Il aurait dû consterner nos cerveaux en ébullition, et ce petit livre de ce grand homme aurait fait un flop si seulement, il y a 40 ans, on n'avait pas recouvert les pavés d'asphalte quand, pendant un moment, on les avait rassemblés dans les rues en barricade. Alors, plus le livre de M. Hessel s'est vendu, et plus son message, si beau, s'est délité sous terre, comme les feuilles d'une seule saison. Rien ne nous indigne, en fait. Il se trouve toujours quelqu'un sur le chemin de notre indignation pour nous expliquer que, mais non, nous avons tort. Quelqu'un de bien, évidemment. Parfois même gentil, qui veut nous protéger. D'ailleurs, il y en a qui sont payés pour cela. Ils dirigent des journaux, ils montrent à la télé qu'on peut se moquer de toutes ces indignations. On peut nous dire que c'est plus compliqué que ça, qu'il faut regarder, la mondialisation, les obligations mondiales. Alors, leurs journaux et leurs magazines sont remplis d'éditoriaux ciselés par des esprits vifs et bien en phase avec la toile cirée des modes sur laquelle tout glisse. Ils ont la plume trempée dans le calembour, comme les semelles dans la déjection canine. Ils se moquent avec talent parfois, mais voilà, ils se moquent. Et ils catégorisent de bobos ou de révoltés ceux qui n'ont pas envie de dire la même chose. Ah là là, il y en a même qui montent sur scène, avec des petits regards acerbes sur nos défauts, et qui font leur beurre de nos travers, et laissent ainsi filer, hors de nos frontières, la honte friquée. La misère frappe de plus en plus fort aux portes des maisons, mais les pinces sans rire gagnent du terrain. et se dépêche de moquer de ces qu'on devrait vraiment dénoncer. Alors, laissez l'auditeur au comique où, au bout du compte, l'indignation perd sa force car elle se trouve rangée dans une case, celle du citoyen énervé ou du papier d'humeur. À l'occasion d'une grosse claque dans le dos, les Guéants et les Cahuzacs se retrouvent réunis dans le même sac du tous pourri. Et voilà, bon, bah écoutez, on va arrêter de s'indigner, cher monsieur. On va rire, ou alors on cassera des vitrines. Mais entre les deux, trop de boulot, pas que ça à faire. Alors, oui, voilà, c'est un peu le problème, c'est qu'on rit parfois de ce qui devrait nous indigner. Mais je voulais vous remonter le moral avec un grand coup sur la culture, un grand coup de réconfort sur la culture, parce que quand même, c'est là d'où vient Philippe Torreton, et il nous a dit que la culture, eh ben oui, ça coûte pas si cher, et puis ça rapporte. Alors, allons voir un peu ce qu'il nous dit de la culture.
Je ne sais pas trop d'où sort cette étude, mais je dois te dire qu'elle a fait ma joie en ce début d'année nouvelle. Une étude commandée par le ministre de la Culture qui démontre que l'activité dont elle a la tutelle est rentable. Je ne retiendrai que deux chiffres. Le spectacle vivant reçoit 830 millions d'euros d'argent public et génère 8,8 milliards d'euros de valeur ajoutée. Des sages, des experts en costume et à calculette en sont arrivés à constater ce que les artistes ressentent et ce que les maires avisés observent depuis toujours. L'art est une richesse. Et pas seulement pour l'esprit. Ce que des princes et des monarques depuis fort longtemps avaient totalement intégré à leurs ambitions politiques et militaires. Des services comptables le redécouvrent après force calcul. C'est bien. Ta ministre de la Culture avait l'air contente d'avoir ses chiffres en main pour défendre ses artistes. Alors que pour l'instant, rien de faramineux n'est sorti de vos bouches pincées, quelle honte que de se faire souffler la primeur d'un début de considération pour la chose culturelle dans un rapport comptable. Tu sais donc maintenant que la culture produit de la richesse, mais comme ce rapport doit être sous une pile de chemises colorées sur ton bureau, je veux en t'en parlant que tu comprennes l'immense bêtise qu'il y avait à baisser son budget. Économiser sur la culture, c'est appauvrir le pays. En plein conflit mondial, des esprits qui se voulaient avisés avaient suggéré à Churchill de réduire, au nom de l'effort de guerre, les subsides alloués à la culture. Le premier ministre leur avait répondu « Ah oui ? Mais alors pourquoi nous battons-nous ? » Mais la grande étude reste à faire. Imagine, cher François, cette masse monétaire qui circule chaque jour grâce aux activités culturelles. Essaye de comptabiliser les spectacles qui ont lieu chaque soir sur tout le territoire. Imagine le nombre de tickets vendus. Tous ces spectateurs qui prennent des voitures, des trains, des RER, des métros, des scooters, qui cherchent une place de parking, qui écopent d'une amende, qui achètent un programme, consomment un café, une bière, une coupe de champagne, un sandwich, qui ont réservé une ou un babysitter. Fais le même calcul pour le cinéma. Prends en compte, car tout compte, des milliers de maisons s'achètent et se louent, des milliers de chambres d'hôtel, des milliers de couverts chaque soir, chaque jour, sont réservés pour loger et faire dîner des techniciens, des artistes, des spectateurs, des administratifs du spectacle. Le moindre tournage de film dans n'importe quelle région de France apporte une bulle d'activité et d'argent souvent inespérée. Chaque festival entraîne une suite de retombées, non seulement immédiates, mais de long terme. Combien de maisons de campagne retapées ou sorties de terre dans des régions festivalières? Combien de petits coins charmants découverts par des urbains de passage à l'occasion d'un festival? Essaye deux secondes d'imaginer la chaîne de métiers sollicités pour qu'un spectacle voie le jour. Ses commandes de matériel, ses locations, ses fabrications, la consommation d'énergie, les taxes, la TVA. Les droits d'auteur, je ne suis pas certain que le ministère ait tout comptabilisé.
Eh oui, la culture, c'est bien et ça rapporte. C'est bon pour tout le monde et ça rapporte. Et ça, c'est peut-être le vrai message qu'il faut garder pour clore un petit peu ces messages de Philippe Torreton. Lui qui est acteur, bah oui, il est venu nous dire que la culture, c'est bien, ça rapporte et c'est un vrai plaisir. Donc pour encore plus de plaisir, bah je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre lecture. Et je vous dis au revoir, à bientôt.